profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir amis du soir et d'histoires étranges, voici notre programme. Tout d'abord une expérience mystique liée aux ovnis, le cas particulièrement étrange d'Orfeo Angelucci. L'histoire se situe dans les années 50. Puis, le capitaine de la soucoupe était une femme. Le cas aussi étrange de Truman Beturum. Dossi OVNI, dans les grands classiques, le message d'Orfeo Angelucci. En matière d'ufologie, il semble qu'il faille faire une différence entre l'expérience mystique qui correspond à un état modifié de conscience et l'expérience physique concrète qui laisse des traces sur l'environnement ou le corps du témoin, c'est-à-dire cicatrices, brûlures, griffures. Les expériences dites mystiques engendrent le plus souvent un sentiment de communion et d'extase chez le témoin, et aussi rares et brèves que soient ces expériences, elles restent toujours gravées dans la mémoire du témoin comme l'un des moments les plus importants de leur vie. Dans le domaine religieux, ces expériences sont relativement fréquentes et touchent toutes les couches de la population. Mais lorsqu'elles mettent en scène des entités extraterrestres qui souhaitent porter un message à l'humanité à travers un témoin humain, elles ne sont plus qu'une petite poignée. Les sceptiques qui font remarquer le caractère transitoire et extrêmement bref de l'expérience préfèrent expliquer ces phénomènes par l'usage de psychotropes. Mais les témoins qui ont eu le sentiment de communiquer avec une force supérieure sont souvent marqués à vie par ce contact, ce qui ne correspond pas aux effets extrêmement brefs et temporaires des psychotropes. C'est justement une de ces expériences mystiques liées aux ovnis que nous allons découvrir aujourd'hui en détail dans notre rubrique « Les grands classiques de l'ufologie ». Il s'agit du cas particulièrement étrange d'Orfeo Angelucci, qui après une enfance difficile a dû surmonter toute sa vie un grand décalage avec les réalités concrètes de la vie quotidienne et le message qu'il a entendu. On le comprend. Alors, présentation du personnage. Monsieur Orfeo Angelucci fait partie des plus célèbres contactés des années 1950. Après une enfance difficile en raison de problèmes de santé qui lui ont imposé de nombreuses années dans un lit d'hôpital, Orfeo a trouvé du travail dans une usine d'assemblage en aéronautique chez Lockheed en Californie. Bricoleur à ses heures, il a mené en 1955 ses propres expériences scientifiques pour attirer les ovnis. Il a écrit de nombreux ouvrages sur ses contacts et nombreux messages. À la fin des années 60, fort de ses expériences et de ses contacts répétés avec les ovnis, il a décidé d'écrire un mémoire sur la nature des entités infinies, qu'il a adressé par courrier à de nombreux savants. Apparemment, aucun d'entre eux n'y a prêté attention, évidemment, mais son cas peu banal a tout de même attiré l'attention de l'ufologue Jung, dans Flying Saucer, Present and Bollinger Series, qui a jugé que les expériences d'Angelucci n'étaient pas un canular, mais plutôt une expérience mystique avec des entités d'un autre monde. Nous allons la découvrir ensemble. Voici les étranges visiteurs d'Angelucci. Orfeo Angelucci est un homme simple, d'origine italienne, qui travaille comme mécanicien avion chez Lockheed, je le répète ici. Donc plutôt les pieds sur le sol, hein. Bien qu'il ait vu son premier ovni le 4 août 1946, lors d'une expérience où il avait envoyé quelques cultures de moisissures dans un ballon météo pour tester leurs effets sur les ovnis dans les hautes altitudes, son véritable contact s'est produit le 23 mai 1952, alors qu'il est rentré chez lui après son service de nuit. Cette nuit-là, il était étrangement malade, au point de vouloir rentrer prématurément chez lui au volant de sa voiture. C'est alors que sur le bord de la route, il a aperçu deux boules de feu aveuglantes. Il ne pouvait faire autrement que d'arrêter son véhicule. C'est à ce moment-là, alors qu'il observait le phénomène, qu'il a entendu une voix puissante résonnant dans son crâne. « Ne paniquez pas, nous sommes vos amis. Sortez de votre véhicule. Les lumières que vous avez vues nous ont permis de synchroniser nos instruments sur votre fréquence d'émission. Vous devez boire le verre que vous trouverez sur le tableau de bord de votre voiture. » Il a alors remarqué une coupe de cristal à côté de lui qui contenait un liquide bouillonnant de couleur or. Il a donc obéi. Le goût de cette boisson était extraordinaire et soudain, la fatigue qu'il ressentait a disparu instantanément. Bizarre. Il a remarqué alors que les deux boules de lumière étaient en train de diminuer d'intensité. À la place, deux disques étaient maintenant disposés à quelques dizaines de mètres en face de sa voiture. De l'un d'eux est sorti un faisceau de lumière, projetant l'image tridimensionnelle des bustes d'un homme et d'une femme à la beauté parfaite. Ces deux apparitions commencèrent alors à lui parler par télépathie. Il entendit ceci. « La route va s'ouvrir, Orfeo. Nous voyons chaque individu sur Terre tel qu'il est, et non pas tel qu'il est perçu par les sens limités de l'homme. Les habitants de votre planète sont depuis des siècles en observation. Nous avons enregistré tous les progrès accomplis par votre civilisation, et chaque homme, chaque femme et chaque enfant est analysé de façon statistique par le biais de nos disques de verre. Chacun de vous est infiniment plus important que pour nous que pour vos congénères parce que vous n'êtes pas conscient du véritable mystère de votre être. Nous croyons à l'avènement d'un profond sentiment de fraternité au sein du peuple de la Terre et nous avons une relation ancienne avec votre planète. Nous avons noté avec une profonde compassion que votre monde traverse une période de douleur croissante, mais nous vous demandons simplement de nous voir comme des alliés et des frères aînés. Nos vaisseaux peuvent facilement et naturellement approcher la vitesse de la lumière au cours de leur déplacement. Cela vous semble impossible parce que vous avez pris l'habitude de réfuter en bloc tout ce qui n'a pas encore été découvert par vos scientifiques. En effet, à l'approche de la lumière, la dimension de temps devient inexistante. Et l'on pénètre dans une nouvelle dimension où l'on peut franchir plusieurs de vos siècles en un instant. Dans les dossiers de la lumière se trouve l'histoire complète de la Terre et de toutes les entités, à commencer par les âmes humaines qui se sont incarnées sur son sol depuis les origines. Dans les temps actuels, nous ne pouvons pas faire savoir notre présence au terrien. La vitesse de la lumière est la vitesse de la vérité et la loi cosmique nous interdit de faire des atterrissages en masse et spectaculaires sur la Terre. Nous vous contacterons à nouveau, Orfeo, mais pour l'instant, mon ami, il est temps de nous dire au revoir. Et l'instant d'après, l'écran tridimensionnel disparaît, laissant Orfeo Angelucci très confus et seul devant son véhicule. Il rentre alors chez lui, où il restera au lit pendant 2 jours. Bizarre, bizarre. Seconde rencontre. Après ce contact avec ces entités hautement spirituel, Orfeo fait une seconde rencontre encore plus extraordinaire le 23 juillet 1952. Ces faits sont relatés dans son second ouvrage intitulé « Le Fils du Soleil », édité en 1959, où il écrit comment il a été embarqué à bord d'une soucoupe volante sans pilote pour être amené en orbite terrestre, où il a vu un vaisseau-mère géant qui dérivait dans l'espace. Ainsi, le 23 juillet 1952, alors qu'il circule sur une route menant à sa maison, une sensation de picotement dans les bras et les jambes, identique à celle qui avait précédé son premier contact, le reprend soudainement. C'est alors qu'il aperçoit sur le côté de la route, dans le lit d'une rivière à sec, un ovni en forme d'igloo d'environ 9 mètres de diamètre. Il émane de l'objet une sorte de lueur pâle. Une ouverture est présente à son sommet. Une voix invite alors Orfeo Angelucci à entrer à l'intérieur de l'engin. Il obtempère et se retrouve à l'intérieur du dôme. Les parois sont faites d'une matière translucide pulsante qui projette de la lumière. Juste en face de l'entrée se trouve un fauteuil revêtu d'une étoffe scintillante. Il reçoit alors l'ordre de s'asseoir et grâce à une fenêtre circulaire qui s'ouvre devant lui, Orfeo se rend compte que l'engin décolle en direction de l'espace. Son regard se porte alors sur la Terre suspendue dans les étoiles et ses yeux se remplissent de larmes. Une voix se fait alors entendre. « Pleure, Orfeo, nous aussi nous pleurons avec vous pour la Terre et ses créatures qui, en dépit de sa beauté apparente, est un monde de purgatoire entre toutes les planètes sur lesquelles une vie intelligente existe. La Terre a accepté de devenir pour un temps un exil pour d'innombrables âmes en quête d'évolution. Elles ont choisi d'expérimenter certaines limitations et la Terre a accepté de leur fournir toutes les conditions dont elles ont besoin pour s'extraire de l'impasse dans laquelle elles se sont fourvoyées. La haine, l'égoïsme, la cruauté coulent sur elles comme d'un nuage sombre. Tout le monde sur Terre a une âme spirituelle qui transcende le monde matériel et la conscience et vit pour toujours en dehors de la dimension du temps dans un état de perfection spirituelle au sein de l'unité de l'âme supérieure. » Sacré discours. Les entités se sont alors présentées devant Orfeo et l'une d'elles lui dit d'une voix douce et triste « Je suis Neptune et voilà Lyra et Orion. » Percevant l'accent de vérité qui émanait de cette voix merveilleuse, Orfeo fut profondément bouleversé par une onde d'amour et de compassion. Après un long silence, il a vu à travers la paroi un second vaisseau ovale entouré de flammes qui approchait du sien. Il a alors entendu dans sa tête une voix qui semblait provenir de là-bas. Cette voix disait ceci. « Frères de la Terre, certaines entités de votre planète travaillent à leur salut à partir du plan des ténèbres. Elles évoluent vers le côté négatif, c'est-à-dire la régression et un plus grand mal. Vous êtes devenu notre émissaire, Orfeo, et vous devez agir. Même si les gens de la Terre se moquent de vous et vous prennent pour un fou, dites-leur qui nous sommes. Nous aimons tous les enfants de la Terre, et il est de notre désir de les aider, car l'heure de la crise approche. Mais nous devons le faire en conformité avec les lois cosmiques. C'est pourquoi nous n'aiderons que ceux qui, comme vous, aspirent de tout leur être à l'unité et à la fraternité. La maladie, les problèmes de santé et toutes les afflictions que subissent les mortels sont transitoires et irréelles. Le chagrin, la souffrance et les conflits permettent à l'humanité de développer l'amour et la sagesse et d'évoluer spirituellement. Vous pouvez vous élever au-dessus des insuffisances de votre corps physique, Orfeo, comme peuvent le faire tous les autres terriens. Rappelez-vous toujours que nous vous aimons, vous et l'ensemble de vos frères et sœurs de la Terre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les enfants de la Terre, mais en respectant leur libre arbitre. » Discours, voilà, vous l'avez noté, mystique, à moitié religieux. L'entité a alors consacré de longues minutes à répondre aux nombreuses questions que Orfeo lui posait sur le Christ. « Nous savons que vous vous posez de nombreuses questions sur Jésus-Christ. Jésus n'est pas né Christ, il est né fils de Dieu comme nous le sommes tous. Le Christ est le Seigneur de la flamme, une entité infinie du soleil. Par compassion pour les souffrances de l'humanité, il a accepté de venir vivifier la chair et le sang d'un homme. L'esprit du soleil s'est sacrifié à travers Jésus pour les enfants de la terre. Il est devenu une partie de l'âme unique de l'humanité et l'esprit de votre monde. Il diffère en cela de tous les autres enseignants. » Puis, dans un éclair aveuglant, l'entité a révélé à Orfeo toutes ses incarnations précédentes. Cette vision a été si fulgurante qu'Orfeo s'est évanoui. Puis, il s'est réveillé exactement d'où il était parti, à quelques pas de sa voiture. Il était littéralement métamorphosé par cet incroyable message qui venait de le changer à tout jamais. Quelques semaines plus tard, sentant des picotements dans sa poitrine, il découvre sur sa peau un cercle enflammé avec un point au milieu. Orfeo l'interprète comme le symbole de l'atome d'hydrogène. À la fin de l'année 1955, le contacté décide de relater toute cette expérience dans l'ouvrage « Le secret des soucoupes », dont voici un extrait, je cite. « À l'été 1953, j'avais décidé de tout oublier de ces contacts, mais j'ai commencé à avoir honte de moi-même. J'aurais trahi la confiance qu'ils avaient placée en moi si je ne faisais rien. Ils m'avaient dit « La route va s'ouvrir, Orfeo ». J'ai alors réalisé ce que j'avais à faire pour aider les miens à comprendre le message de ces étranges visiteurs. » Dans son livre, Orfeo est ainsi le premier contacté des années 1950 à utiliser le terme nouvel âge. Un peu plus tard, en 1959, il complète ce message avec un autre ouvrage, Le Fils du Soleil, dans lequel il y relate l'expérience similaire qui serait arrivée à un autre contacté qui se faisait appeler Adam et dont les expériences étaient semblables aux siennes. Il a également publié plusieurs brochures telles que « J'ai rencontré l'homme des soucoupes volantes » en mai 1954, « Mon réveil sur une autre planète » octobre 1954 et « Concrète évidence » en 1959. Conclusion de l'aventure. Que faut-il penser de tout cela ? En 1952, le témoignage d'Orfeo Angelucci était véritablement en avance sur son temps et ne coïncidait pas avec celui d'autres contactés de son époque comme Howard Menger ou George Adamski. Pour lui, les frères de l'espace existaient dans des dimensions supérieures, de sorte qu'ils pouvaient apparaître et disparaître à volonté. C'est une opinion qui ne s'est généralisée que dans les années 1990, lors de la grande période dite des abductions aux États-Unis. Ainsi, Orfeo est-il le plus imaginatif de tous les contactés de son époque, ou le plus fascinant de tous? Il prétend avoir eu 8 rencontres sur une période de 9 ans, pendant laquelle il aurait toujours été sous l'observation des extraterrestres. On peut relever une première chose de son témoignage. Il existe un point commun à tous les contactés. Tous retirent de leur expérience un message fort d'amour, de compassion et d'avertissement pour l'humanité. L'expérience d'Orfeo doit être étudiée dans la globalité et le contexte des autres messages de son époque, c'est-à-dire le début des années 50. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, les questions suivantes sont inévitables. Faut-il rire de la naïveté de son message ? Les entités se sont-elles allègrement moquées de lui ? Dans le cadre de quelle expérience sociologique ? Ou alors était-il encore tout simplement un de ces mythomanes ? Bien, nous laisserons comme toujours les auditeurs se faire leur propre opinion. Et ceux qui se plaignent que le contact se fait toujours attendre pourront toujours réfléchir à celui qui nous a laissés. Fin de citation. Petite pause musicale à présent, et je vous retrouve avec plaisir. Oui, vous écoutez au plus profond des ondes cette émission un petit peu décalée où j'aborde des histoires extraordinaires de tout poil. Là, nous sommes sur des dossiers ufologiques absolument intéressants et un petit peu déboussolants. Je vais vous parler maintenant de l'affaire Truman-Bethurum. Nous sommes au mois de juillet 1952. À la une des journaux de Las Vegas, on parle de la rencontre supposée entre un ouvrier californien et une ravissante femme, capitaine d'une soucoupe volante venue de la planète Clarion, une planète cachée derrière notre soleil. C'était la première fois qu'une histoire de contact avec des visiteurs de notre monde s'affichait en gros titre de la presse à Las Vegas et Los Angeles. La rencontre faite cette nuit-là par Truman-Bethurum allait rentrer dans l'histoire des grands classiques de l'ufologie. Un récit dans la droite ligne des autres contactés de son époque, comme George Adamski et George Van Tassel, qui furent de grands amis de Truman-Bethurum et qui le poussèrent à retranscrire toute son aventure par écrit dans un livre qui parut en 1954, à bord d'une soucoupe volante. Alors, je vous invite donc à la découverte de ce dossier hors du commun. Voilà l'histoire. La rencontre. Truman est ouvrier donc, et il travaille sur les routes du désert à la confection des bitumes. Pour se rendre sur ses chantiers, il doit traverser tous les soirs le désert du Nevada. Un soir d'une chaude nuit d'été de juillet 1952, il s'arrête pour se reposer sur un parking à 100 km de Las Vegas. Alors qu'il dormait dans son camion, il est réveillé par les murmures d'un groupe de petits hommes qui entourent son véhicule. Truman est stupéfait de découvrir des petits êtres étranges qui ne mesurent pas plus de 1,50 m et qui tournent inlassablement les uns autour des autres en marmonnant dans une langue qu'il ne comprend pas. Son cœur bat si fort qu'il se dit « ça y est, cette fois, je vais mourir ». Ils ont une peau très pâle qui tire sur le vert olive et ils portent des uniformes. C'est-à-dire chapeau noir, costume bleu-gris similaire à ceux des conducteurs de bus de la Greyhound, des cheveux noirs charbon et des yeux foncés. Ils ont aussi une belle police, sans aucune ride ou défaut. Truman constate que malgré l'uniforme, les petits êtres ne sont pas armés et ils ne semblent pas menaçants. C'est alors que l'un des petits hommes s'approche de Truman et lui adresse la parole dans une langue inconnue. Truman lui répond qu'il ne parle qu'anglais et qu'il ne comprend pas. Immédiatement, le petit être incline la tête puis répond dans un anglais parfait. « Quel est votre nom ?» Soulagé d'entendre parler sa propre langue, Truman descend de son camion et lève la main vers l'entité en signe de paix et d'amitié. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit posée non loin de là une soucoupe volante d'environ 90 mètres de diamètre. Cette fois, Truman a la confirmation. Il comprend qu'il n'est pas en présence d'être humain. Le disque grillacier, parfaitement poli, est magnifique et monstrueux à la fois. Truman serre les mains de la douzaine des petits hommes qui l'entourent. Il demande alors qui est le chef de leur expédition. Et celui qui semble être le porte-parole du groupe lui propose de le mener à bord de l'engin pour lui présenter leur reine. Le chef du groupe saisit alors le bras de Truman et lui dit « Je vous invite à rencontrer le capitaine du vaisseau ». Et ils partent ensemble en direction de l'entrée de l'engin métallique. En chemin, Truman lui demande d'où ils viennent. L'entité lui répond alors « Nous vivons sur une terre très lointaine ». Et à peine terminé ces mots, l'entrée du disque qui flotte à quelques centimètres du sol est devant eux. Les lumières le long du couloir sont allumées et Truman s'engouffre à l'intérieur de la carlingue métallique à la rencontre du capitaine de l'équipage. Arrivé au centre de l'engin, Truman est très étonné de se retrouver devant une jeune et jolie femme, magnifiquement proportionnée, bien que plutôt petite. « Je suis le commandant de cet appareil et je vous souhaite la bienvenue à bord », lance-t-elle à l'arrivée de son hôte dans la pièce. Elle est coiffée d'un béret noir et rouge, d'une jupe rouge, d'un chemisier noir, qui épouse avec volupté la perfection de son corps. Ouais. On n'a pas affaire ici à des gens en combinaison spatiale. Très étrange. Puis elle poursuit. « Je me nomme Aura Rahn. Entrez, je vous en prie, et prenez place sur ce long canapé très confortable. Je suis heureuse de vous accueillir. » Une fois Truman installé, elle reprend. « Moi et mon équipage sommes des voyageurs interplanétaires qui venons de découvrir votre Terre. Pour nous, les distances entre les planètes n'ont pas grande importance, et ce qui nous intéresse, c'est la nature profonde des peuples que nous rencontrons. Nous avons remarqué que votre peuple était d'une nature guerrière, pleine de préjugés et pris de violence. Mais ce n'est pas le pire, le danger le plus grave qui vous guette est provoqué par vos recherches sur l'atome. » La folie de vos scientifiques vous fait courir un grand danger. » Observant les yeux foncés et écoutant la voix douce de cette femme, Truman ressent alors une profonde émotion l'envahir et il pose au commandant du vaisseau une série de questions qui lui viennent à l'esprit. « Quelle est votre planète d'origine ? Certaines des soucoupes volantes observées au-dessus du territoire américain vous appartiennent-elles ? » Elle lui répond que les nombreuses observations d'OVNI ne concernent pas uniquement leur engin. D'autres races survolent la Terre. Elle lui révèle qu'ils sont originaires de la planète Clarion, un lieu magnifique où toutes maladies, guerres et autres périls ont été bannis à jamais. Elle lui apprend aussi que Clarion est assez proche de la Terre, cachée derrière la Lune. Petite note, plus tard d'ailleurs, Truman dira qu'il avait mal compris ce que Hora lui avait dit. La planète était invisible parce qu'elle était de l'autre côté du Soleil, et non pas de l'autre côté de la Lune. La distance entre les mondes n'a pas d'importance pour nous, et ce que vous appelez le temps est sans incidence dans nos vies. Comme vous, nous aimons un Dieu qui voit tout, qui sait tout, c'est une divinité suprême, poursuit-elle. Et Truman lui répond alors, vous devez avoir un savoir énorme et de très gros moteurs pour voyager ainsi. Mais souhaitant visiblement précipiter la fin de cet entretien, Oraran tend le bras vers la sortie comme pour inviter son hôte à sortir. Et à peine arrivé au seuil de la soucoupe, Truman est étonné de voir que le soleil est désormais haut dans le ciel, bien qu'il n'ait l'impression de n'avoir passé que quelques minutes à l'intérieur de l'engin. Il remercie alors ses amis interplanétaires et la jolie jeune femme lui promet qu'ils se reverront bientôt. Puis l'engin s'envole sans un bruit, émettant des éclats métalliques sous le soleil. Une fois seul, Truman se retrouve groggy au milieu d'un silence total en plein désert. Il remonte alors dans son camion complètement déboussolé, ayant vécu l'expérience la plus incroyable de sa vie. Sur le trajet qui le conduit à son travail, il prend la décision de ne parler à personne de son expérience. Mais quand il arrive à son poste, il est étonné d'y trouver son patron, Whitey Edward, qui l'attend avec impatience. Il a lui aussi vu se poser ce qu'il pense être un ovni. « Toi aussi tu l'as vu ?» demande-t-il à Truman, qui ne peut faire autrement que d'acquiescer. « Oui, c'est une soucoupe volante et je suis monté à bord, » lui répond-il. La nouvelle fait vite le tour des employés et quelques heures plus tard, Truman subit déjà les moqueries, les colibés de ses collègues au sujet, bien sûr, des petits hommes verts. Expression largement utilisée quand on se moque de vous. Quand vous croyez aux entités extraterrestres, je souligne qu'ils ne sont pas verts mais qu'ils sont gris. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Le reste de la journée est pénible. Plus il réfléchit à son aventure, plus il doute. Ses collègues, qui l'ont surnommé soucoupe, ont remis sa santé mentale en doute. Il souffre terriblement de la situation. Pourtant, il n'a pas rêvé. Il se remémore ce que lui a dit cette ravissante femme. Si vous le souhaitez vraiment, pensez à nous et nous reviendrons. Seconde rencontre. La nuit du 3 octobre 1952, Truman va faire une seconde rencontre avec Hora Ran. Il fait très chaud et il voit apparaître à l'horizon une petite lumière brillante qui ressemble à un météore. C'est le vaisseau spatial des Clariens qui est de retour. Il se pose sur le sable du désert et un équipage au physique européen en sort et vient à sa rencontre. Truman attend cette nouvelle rencontre depuis des mois. Il va enfin pouvoir poser toutes les questions qui le tenaillent. Il voit alors Hora Ran descendre et venir vers lui. Truman prend la parole. « Enfin, quel plaisir de vous revoir. J'ai tant de questions à vous poser. Avez-vous des origines communes avec les Américains ou les Européens ?» Hora Ran répond. « Non, je vous l'ai déjà dit. Je viens d'un autre monde. Truman, d'une autre planète ?» Hora Ran, oui. Stroman, cette planète est-elle plus loin que la Lune ? Raran, oui, vraiment plus loin. Mais elle n'est pas visible depuis la Terre et vos scientifiques en ignorent l'existence. Il nous faut 48 heures de votre temps terrestre pour venir jusqu'ici. Nous avons une atmosphère comme vous, des usines, des routes et des maisons. Truman, quel âge avez-vous ? Je vous donne à peine 42 ans. Raran, je suis grand-mère de 2 enfants et j'ai plusieurs centaines d'années. Truman, comment se fait-il que vous sachiez si bien parler l'anglais ? Raran, nous captons toutes vos émissions radio depuis que vous avez commencé à émettre et c'est ainsi que nous avons tout découvert sur vous et appris toutes les langues de la Terre. Truman, croyez-vous en Dieu ? Raran, tout comme vous, nous croyons en un Dieu unique d'amour et de compassion et grâce à lui, nous avons échappé aux guerres et aux épidémies qui règnent encore sur Terre. Nous avons été très chanceux et notre société a pu se développer très vite. Truman, observant le vaisseau spatial et s'adressant à un des hommes d'équipage. Il doit peser très lourd, ce véhicule. L'homme d'équipage, ce véhicule est léger comme une plume. Il est fait d'un matériau très spécial, très résistant. Nous devons maintenant repartir, on nous attend. L'équipage en uniforme se regroupe alors et se dirige vers l'engin comme un groupe de soldats, laissant alors Truman à son expectative devant le départ de l'engin. Épilogue de l'histoire. D'après ce qu'il a écrit dans son premier livre témoignage, il reverra 11 fois les extraterrestres entre juin et novembre 1952, et sa femme fut toujours la confidente privilégiée de toutes ces rencontres. Mais pour elle, son mari était le fruit d'une manipulation de la part d'espions de la Corée du Nord, qui étaient alors en guerre contre les États-Unis. Elle était sans doute aussi un peu jalouse de la très belle Raran, que son mari disait avoir aussi rencontré dans un restaurant alors qu'il dînait avec son ami Edward Whitley. Elle portait alors le même genre de vêtements que lors de sa première rencontre, un petit béret noir et rouge sur la tête et une jupe plissée. Truman était allé à sa rencontre pour lui dire « Je vous demande pardon, madame, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés ?» Mais la femme souhaitait visiblement ne pas être reconnue. Truman s'excusa alors et retourna sur son siège pour finir son café, regardant toujours dans sa direction. Mais très vite, elle paya son addition et partit précipitamment avec les hommes qui l'accompagnaient. Conclusion de l'histoire. En novembre 1952, beaucoup de gens ont commencé à connaître les histoires de Truman et sa renommée grandissante l'a amené à discuter de la question avec George Adamski, puis à écrire son premier livre en 1954 qui s'intitule « À bord d'une soucoupe volante ». Dans ce livre, il donne moult détails sur Clarion et ses habitants. Puis suivons 3 autres livres. La voix de la planète Clarion en 1957, Face à la réalité en 1958, et Le peuple de la planète Clarion, publié après sa mort en 1970. Il donnera aussi de nombreuses conférences publiques, et sa seconde épouse finira par demander le divorce en 1955, principalement en raison de sa jalousie envers Raran. Petite note. Croustillante, il avait déclaré lors de ses conférences publiques qu'il avait eu des relations amoureuses avec elle. Après ce succès temporaire, Truman retomba dans l'oubli. Il est mort dans son lit le 21 mai 1969, sans jamais dévier le moindre détail de son récit. Ce contact pourrait nous sembler trop fantastique pour mériter une attention sérieuse. Cependant, elle regroupe tous les stéréotypes des rencontres de l'époque. Atterrissage d'un engin spatial, contact avec des visiteurs issus d'une planète similaire à la Terre, message d'avertissement écologique délivré aux contactés et visite à bord de l'engin. Ce témoignage, même s'il doit être pris avec la plus grande prudence, est donc exemplaire et apporte un éclairage supplémentaire pour la compréhension de ces dossiers des contactés. L'accumulation des témoignages nous permettra-t-elle, grâce au recul des années écoulées, de nous approcher un jour de la solution à cette énigme si complexe. Il y a des petits détails troublants aussi. Il semble que ces gens se baladent parmi nous. Relevez dans une coupure de journal une photo d'une jeune femme plutôt gracieuse, blonde. Et il est marqué ceci. Cette femme s'est présentée le 7 août 1954 lors d'une conférence sur les ovnis donné par les 3 plus célèbres contactés de l'époque. George Adamski, Truman Bethurum et Daniel Fry. La réunion suivie par plus de 1000 personnes, dont les journalistes américains et étrangers, la police et les agents du FBI, avait lieu au sommet du mont Palomar, à plus de 2000 mètres d'altitude. Le soir du premier jour, alors que c'était le tour d'Adamski de parler, et au moment même où il expliquait que les Vénusiens étaient un peu comme les humains, une rumeur monta dans la foule qui fut reprise par les journalistes présents. Une Vénusienne se serait introduite parmi la foule avec deux hommes qui portaient des lunettes noires. Il y eut un certain émoi dans le public devant cette femme à la peau blanche et avec une longue chevelure blonde qui se défendit de ses accusations avant de s'éclipser discrètement. Voilà, on en pense ce qu'on veut. Bizarre, bizarre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires extraordinaires. Bye bye.
Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the cork. Hey, you getting drunk? So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature? This is a bust. Hey, I'm a bold Mr. Normal. Don't try to gain my trust, 'cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must.
Gonna shake it, let's forget it, better still.
Now you can hear me, your ears are truly sealed. You can't speak either, your mouth is filled. You can't see nothing, pinball completes the scene. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine.
We're not gonna take it. 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 Never did and never will. Don't want no religion, and as far as we can tell, we ain't gonna take you. Never did and never will. We're not gonna take you. We forsake you, gonna rape you. Let's forget you better still. Forget you better still.
See me, feel me, touch me, heal me. I see the million.
story. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain. I get excitement at your feet. Right behind you, I see the millions on you. I see the glory from you. Story. Listening to you, I get the music.